VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour Le Monde, aujourd'hui édition du lundi 24 juillet 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, un casque bleu marocain a été tué hier à Bangassou.
Ouverture hier à Paris de la conférence internationale sur le sida, les États-Unis appelés à maintenir leur financement.
L'explosion d'une voiture piégée fait 24 morts à Kaboul, en Afghanistan.
Réunion d'urgence aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU sur les violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem.
Nouveau drame de l'immigration, ici même aux États-Unis, 9 migrants morts et 28 autres blessés à San Antonio, au Texas.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, un casque bleu marocain a été tué dimanche à Bangassou, dans le sud-est du pays, et 3 autres ont été blessés. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a accusé des miliciens anti-Balaka, majoritairement chrétiens. Bangassou vit au rythme de nouvelles violences depuis quelques jours. Plus tôt dimanche, la MINUSCA avait condamné l'attaque par des éléments anti-Balaka contre le site de la cathédrale où résident actuellement de nombreuses personnes déplacées, disant que 2 enfants ont été grièvement touchés.
Au Mali, plusieurs complices présumés des groupes djihadistes, dont 2 considérés comme des fournisseurs d'armes, ont été arrêtés récemment par la force française Barkhane et l'armée. C'est ce qu'a révélé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, une source sécuritaire malienne.
Au Nigeria, une photo du président Muhammadu Buhari a été postée hier sur le compte Twitter officiel de la présidence. On sait que M. Buhari est hospitalisé depuis mai à Londres et n'a pas été vu en public depuis plus de 2 mois. La photo montre le président, âgé de 74 ans, souriant et attablé avec un groupe de personnes. Selon la présidence, il a reçu dimanche après-midi une délégation de gouverneurs et de dirigeants de son parti, l'APC.
En Angola, la campagne pour les élections générales du 23 août a démarré samedi. Ce scrutin doit marquer la fin du règne du président José Eduardo dos Santos, âgé après 38 ans au pouvoir, Jean-Roger Bion.
Il s'agit d'un scrutin législatif. Le chef du parti majoritaire sera président de la République. Le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 est donné largement favori. M. Dos Santos, qui dirige le pays depuis 1979, a annoncé qu'il n'allait pas se représenter. Il a désigné son ministre de la Défense, João Lourenço, à la tête du parti, mais de nombreux postes importants sont aux mains de la famille du président. L'UNITA, ancien mouvement rebelle devenu la principale formation d'opposition, a tenu un grand meeting samedi à Kakwako, dans la banlieue de Luanda. Son leader, Isaias Samakuva, réclame un audit du fichier électoral. La troisième force est la CASA CE, fondée par des dissidents de l'UNITA, avec à leur tête Abel Chivukubuku. L'Angola, un des principaux producteurs de pétrole, reste l'un des pays les plus pauvres du continent et la chute des cours du brut n'a pas aidé son économie.
Ouverture hier à Paris de la conférence internationale sur le sida avec quelques 6000 participants. Les organisateurs demandent aux États-Unis, premiers contributeurs, de rester engagés financièrement. La chercheuse Lynn Gayle Becker, présidente de la Société internationale du sida, a déclaré à l'ouverture que des coupes draconiennes dans la recherche et le financement seraient une catastrophe.
Les États-Unis, avec près de 5 milliards de dollars, sont le plus gros contributeur dans la lutte contre le sida. Le président Donald Trump propose une baisse de 17% de la contribution américaine au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Kaiser Family Foundation avertit que si ces coupes sont adoptées par le Congrès, 880 000 patients, africains pour la plupart, seront privés d'antirétroviraux et de traitements.
À noter que malgré ces inquiétudes, ONU SIDA a annoncé que depuis 2005, le nombre de morts dues au SIDA a été divisé par 2. L'an dernier, sur les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH, plus de la moitié ont eu accès au traitement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, l'explosion d'une voiture piégée lundi matin a fait au moins 24 morts et plus de 40 blessés dans l'ouest de Kaboul. ciblant la communauté Hazara, chiite durement touchée il y a un an par le premier attentat du groupe État islamique au cœur de la capitale afghane. Selon le ministère de l'Intérieur, la voiture piégée s'est jetée contre un autobus transportant des employés du ministère des Mines.
Ici à Washington, le Congrès s'apprête à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie en riposte à son ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. Mais il n'était pas clair hier si le président Donald Trump allait signer ou non cette loi. Anthony Scaramucci, son nouveau directeur de la communication, a dit à la chaîne CNN qu'il faudrait poser la question au président Trump lui-même. Quant à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, elle a dit à ABC News que la Maison-Blanche appuie la législation actuelle. Selon des parlementaires clés, républicains et démocrates, le raccord n'inclut pas les changements que souhaitait M. Trump et qui lui aurait permis de lever éventuellement les sanctions contre Moscou.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour discuter des violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens, et ce après l'installation de nouvelles mesures de sécurité aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ces réunions qui se tiennent en urgence à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte doivent examiner la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus, a déclaré samedi l'ambassadeur suédois à l'ONU.
Et pendant ce temps, en Jordanie, pays gardien des lieux saints musulmans de Jérusalem, une fusillade dans l'ambassade d'Israël a fait hier 2 morts jordaniens et 1 blessé israélien. On ignore si cette fusillade était liée aux tensions autour de l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam. Israël n'a pas réagi immédiatement.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé hier une tournée dans le Golfe pour tenter d'apaiser les tensions entre le Qatar et 4 pays arabes, Jean-Roger Dion.
Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise perdure, a déclaré M. Erdogan avant de quitter Istanbul. Arrivé hier à Jeddah, il s'est entretenu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite, puis avec le puissant prince héritier Mohamed Ben Salman. Par la suite, il s'est envolé pour le Koweït pour être reçu par l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Shabaab, médiateur dans la crise. Le président turc rencontre aujourd'hui au Qatar l'émir Cheikh Tamim Ben Ahmad Al-Thani. Son déplacement survient peu après une offre de dialogue faite par l'émir qui a toutefois rejeté tout dictat. La Turquie est un proche allié et Ankara a une base militaire au Qatar. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu le 5 juin avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran.
Nouveau drame de l'immigration ici aux États-Unis. 9 migrants ont trouvé la mort et 28 autres ont été blessés. Ils ont été découverts hier, entassés dans une remorque de camion à San Antonio au Texas, près de la frontière avec le Mexique. Le point avec Idriss Fall.
Les morts sont tous des adultes et au moins 2 enfants se trouvaient dans la remorque surchauffée. Les blessés, dont 20 grièvement, ont été hospitalisés. William McManus, chef de la police locale, parle d'une scène d'horreur qui ressemble bien à un trafic d'êtres humains. Le chauffeur du camion a été arrêté. Il a ajouté que les images des caméras de sécurité montrent que des véhicules sont venus chercher certains passagers. Mais on ne sait combien ils étaient au départ, ni combien ont pu s'échapper. Des dizaines de milliers de personnes tentent chaque année d'entrer clandestinement aux États-Unis. En 2003, 19 migrants ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances vers la ville de Houston, au Texas. Le président Donald Trump s'est engagé à construire un mur le long de la frontière pour barrer la route à l'immigration clandestine. Ce projet est jusqu'à présent bloqué par les réticences de certains membres du Congrès américain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Élie Dico.
Zimbabwe, le ministre des Finances Patrick Chinamassa a annoncé que des compensations de 134 millions de dollars ont été versées aux fermiers blancs expropriés lors de la réforme agraire en 2000. Cependant, les intéressés disent ne pas avoir reçu cet argent pour l'instant. Les bailleurs internationaux, principalement le FMI, font de cette indemnisation l'une des conditions de leur retour dans le pays. Nigeria, le gouvernement fédéral va injecter 2,9 milliards de dollars dans la construction de logements. Cette initiative entre dans le cadre du programme nigérian pour l'habitat social afin de répondre au manque de logements et stimuler la croissance économique. Ce programme sera développé par un partenariat public-privé et le projet devrait aboutir à la construction de 2,5 millions de logements à base de matériaux locaux. Guinée, les autorités vont dédommager les expropriés de Demoudoula, titulaires d'un titre foncier. L'indemnisation n'est donc soumise qu'à une seule condition, la possession d'un titre de propriété. Elle concerne les populations du domaine de la forêt classée de Demoudoula, dont les habitations ont été détruites dans le cadre de l'opération lancée le 13 juillet dernier.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
À Abidjan, les huitièmes Jeux de la francophonie ont démarré samedi et déjà des médailles pour les athlètes africains.
Notamment au marathon, avec un triplé pour l'Afrique. Médaille d'or pour le Congolais démocratique Makaron Bondo. Il devance le Marocain Fatiri Abdenassir et le Béninois Daouda Korongo a terminé à la troisième place pour remporter la médaille de bronze. Faridat Gbadamassi a permis au Bénin de remporter une seconde médaille en bronze, cette fois en lutte.
On jouait aussi, parlant de basketball et aussi en football.
D'abord en basket et le Bénin continue son difficile apprentissage avec une deuxième défaite, cette fois face au Luxembourg 89-63. La France a battu in extremis le Mali 63-59 et le Niger qui s'impose devant Maurice 47-39. En football, la Côte d'Ivoire se reprend en battant hier le Burkina Faso 1-0. Un groupe A dominé par la Guinée qui a signé sa deuxième victoire de 1 face au Liban. Le Mali a nettement dominé le Niger 3-0. Dans ce groupe, le Cameroun a eu raison du Congo-Brazzaville 2-0.
Football toujours avec les résultats du second tour. Retour des éliminatoires du CHAN 2018.
Oui, et au sud, les Comores ont obtenu leur qualification aux dépens de Lesotho pour affronter la Namibie au dernier tour. Ça passe aussi pour Madagascar, vainqueur 2-0 de Mozambique à Maputo après le 2-2 à l'aller. Prochain adversaire, l'Angola qui a éliminé l'île Maurice 3-2. L'Afrique du Sud et la Zambie sera la dernière affiche dans cette zone pour le dernier tour. Et puis dans la zone Ouest B, le Bénin élimine le Togo au tir au but 8-7, 1-1 après le temps réglementaire. Même score à l'aller. Une qualification méritée selon Visi Touré, l'entraîneur adjoint des écureuils.
Chaque qualification, on le prend. La manière reste très peu. Parce que si je me souviens très bien par rapport au match aller, j'ai bien dit au Togo que le plus dur, c'est à Cotonou. On l'a vraiment marqué. Et c'est ça qui a fait durer le suspense. Mais finalement, je crois que tout le monde doit être content. Parce qu'apparemment, si vous devez faire vos analyses, vous avez une équipe qui a joué au foot sans championnat, si je peux me permettre le luxe. Mais au jour d'aujourd'hui, on est content de continuer un travail parce qu'on est qualifié et que prochainement, ça va être le grand Nigeria.
Les écureuils qui vont donc affronter le Nigeria au dernier tour. Déception par contre dans le camp togolais. On écoute Jean-Paul Abalo, il est le sélectionneur des Épervier.
En faisant 1-1 à Lomé, on savait que ça allait être difficile ici. Les joueurs étaient bien prévenus, on était bien préparés pour vendre chèrement notre peau ici. Mais c'est ce qu'on a fait. On a fait le match parfait. Mais malheureusement, notre élimination vient d'une erreur d'arbitrage parce que le pénalty est bel et bien rentré. C'est vraiment dommage parce que les joueurs ont tout donné. On a fait le match parfait. Bon, on a raté beaucoup d'occasions. On aurait pu faire aussi la différence dans le jeu. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais vraiment, c'est dur. Surtout, j'ai mal pour les joueurs de perdre un match sur une décision de l'arbitre.
La suite des qualifiés pour le dernier tour de ces éliminatoires du CHAN.
Dans la zone Ouest A, le Sénégal élimine la Sierra Leone 3-1. Au tour suivant, les Lions de la Teranga seront opposés à la Guinée-Conakry, vainqueur de l'autre Guinée, la Guinée-Bissau 7-0. Qualification également du Mali et de la Mauritanie. Au centre-est, l'Ouganda passe devant le Soudan du Sud, tout comme le Rwanda face à la Tanzanie. Les deux équipes s'affronteront au tour final.
Zanzibar a vu son statut de membre de la Confédération du football africain résilié à peine 4 mois après son acceptation en tant que membre.
Oui, le président de la CAF, Amada, a déclaré que Zanzibar, qui fait partie de la Tanzanie, n'aura jamais été admis en tant que 55e membre de l'incense en masse. Ils ont été admis sans examiner correctement les statuts qui sont limpides, a déclaré Ahmad. Pour le patron du football africain, la CAF ne peut pas admettre deux associations différentes d'un pays. Et puis on parle de la Gold Cup aux États-Unis et les résultats avec vous, Idrissa. On connaît désormais l'affiche de la finale.
Eh bien, la Jamaïque dominée a tenu bon et a réussi le hold parfait face au Mexique 1-0 en demi-finale de la Gold Cup dimanche pour défier les États-Unis en finale mercredi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 60 000 réfugiés maliens vivant en Mauritanie sont rentrés de façon volontaire chez eux. Pour rapatrier ceux qui se trouvent encore dans ce pays, une rencontre tripartite a réuni Maliens, Mauritaniens et le HCR à Bamako, compte tenu de Kassim, compte rendu de Kassim Traoré.
Ils sont 143 000 réfugiés maliens répartis entre le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Ces derniers pays accueillent encore 51 000 réfugiés maliens. C'est pour le rapatriement des Maliens en Mauritanie que le Mali, la Mauritanie et le HCR ont un accord tripartite signé en juin 2016. La réunion de Bamako est leur troisième rencontre, occasion pour eux d'évaluer les rapports d'activité. Angèle Diossou, représentant du HCR au Mali.
L'engagement du gouvernement avec l'appui de la communauté internationale dans ses efforts de stabilisation vont certainement renforcer toutes nos idées, toutes nos initiatives qui permettront à coup sûr la mise en œuvre de cette solution durable fort précieuse, notamment le retour volontaire des réfugiés maliens se trouvant en Mauritanie.
6 mois après la signature de leur plan de travail, beaucoup d'actions concrètes ont été menées. Pour la partie mauritanienne, ce rythme de travail doit être maintenu. Mahamada Ouldoumeyounou, directeur de l'administration du territoire de la Mauritanie.
Au terme de cet accord, les trois parties s'engagent à respecter le caractère volontaire de rapatriement dans la sécurité et la dignité, en garantissant les droits des réfugiés à la protection internationale et leur intégration dans les zones de retour.
Bien avant l'application de cet accord tripartite, certains réfugiés maliens sont de retour au Berkay. Samba Alhamdou Babi, secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire.
Nous avons enregistré à la date du 30 juin 2017 le retour volontaire et spontané d'environ 60 094 personnes rapatriées. Le renforcement en ressources humaines de 28 points d'arrêtement dans 20 communes à forte concentration de personnes rapatriées. 143 103 réfugiés maliens enregistrés dans les pays d'asile et le retour effectif de 498 170 personnes déplacées internes.
Certains de ces réfugiés de retour bénéficient des dons et vivres de céréales de la part du gouvernement malien et de ses partenaires.
En cette période de soudure, ce don va apporter un soulagement aux bénéficiaires.
Ce don sera distribué conformément au cahier de charges que nous avons reçu. Ça va être distribué aux plus démunis.
J'invite l'ONG HF et tous les acteurs impliqués à tout mettre en œuvre pour que cette opération de distribution se déroule dans les meilleures conditions à hauteur des souhaits et que les céréales parviennent aux vrais bénéficiaires.
Pour faciliter la réinsertion sociale de ces rapatriés et même des populations des régions nord du Mali, le gouvernement est en train de préparer le retour de l'administration dans ces zones. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les autorités sanitaires se préparent à faire face avec la saison des pluies au risque d'épidémie de paludisme, mais aussi et surtout au risque de résurgence de la dengue, une maladie qui avait frappé le pays en 2016. Précision sur cette résurgence de la dengue avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
La lutte s'accentue en ce moment contre les moustiques, principaux vecteurs des maladies de l'heure. Pour corriger les erreurs du passé, la direction de la lutte contre la maladie est à la manœuvre afin de mieux faire face aux épidémies liées notamment au paludisme et à une maladie émergente, la dengue, causée par le moustique tigre et que la population assimile à tort au paludisme, explique le docteur Brice Bikaba, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé.
Cela est lié au fait que c'est une maladie qui a une symptomatologie assez similaire au paludisme et qui est également transmise donc par un vecteur, mais qui est un vecteur différent de celui du paludisme. Nous sommes déjà dans la saison pluvieuse et notons déjà une augmentation des cas de paludisme comme chaque année. La dengue, c'est une pathologie qui est émergente. C'est une maladie qui se développe surtout dans les milieux urbains avec donc une prédilection dans les domiciles utilisant les eaux des Canaries, des pneus, les eaux donc qui stagnent.
Les autorités accompagnent l'initiative d'une ONG nationale, AGIR, qui a mené avec l'Institut international du vaccin une étude pour mieux impliquer la communauté locale dans la recherche de meilleures réponses possibles, témoigne Samira Ouidraogo, membre de l'étude.
Nous avons tiré au sort 287 ménages à Tampuy et nous avons utilisé pour notre évaluation une zone de comparaison où il n'y a pas eu d'intervention qui était juvénile et où nous avons tiré au sort aussi 289 ménages pour voir est-ce que comparativement à Tampuy où nous avons réalisé l'intervention, il y a une différence qu'on observe entre juvénile et Tampuy. On peut juste à travers des gestes simples protéger la population contre des maladies graves telles que la dengue et le paludisme.
Ces initiatives réjouissent une municipalité de Ouagadougou totalement impliquée, assure le docteur d'art Francis Albert Soumé, directeur de la santé de la commune de Ouagadougou.
La municipalité a déjà créé des directions techniques donc chargées de mettre en œuvre cette politique. La commune met plus de 3 milliards par an pour l'assainissement donc, du milieu. Il y a une autre direction chargée des aménagements paysagers qui se charge de voir comment les espaces non occupés peuvent être bien aménagés pour éviter d'être des lieux de reproduction de vecteurs.
Un millier de cas de dengue avaient été diagnostiqués par l'OMS lors de la crise initiale en 2016. Le directeur de la lutte contre la maladie s'est alors voulu rassurant sur le dispositif actuel de réponse, même s'il en appelle à la vigilance des citoyens. Docteur Brice Bikaba.
Nous avons prépositionné les médicaments dans les 13 régions. Nous sommes en train de mettre également un système de surveillance. Dans certains sites, comme message, c'est de dire aux populations d'utiliser le moustiquaire imprégné en longue durée d'action, de se protéger d'une manière générale contre les piqûres de moustiques en utilisant les répulsifs et autres moyens que l'on a.
Les autorités sanitaires se veulent prêtes à faire face avec une batterie de mesures appropriées à toutes les maladies de la saison, notamment le paludisme et la dengue, une maladie émergente qui monopolise à raison toutes les attentions. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Cameroun, les malades souffrant d'insuffisance rénale font face à une pénurie de kits dont ils ont besoin pour leurs séances de dialyse dans les hôpitaux publics. Pour exprimer leur mécontentement, ils organisent des sit-ins, comme ça a été le cas à deux reprises la semaine dernière à l'hôpital général de Yaoundé. Le gouvernement a pour sa part annoncé une distribution dès ce lundi de kits dans les centres de dialyse du pays. De Yaoundé, reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
À l'hôpital général de Yaoundé, les patients d'insuffisance rénale, toutes tranches confondues, protestent contre la pénurie de kits de dialyse.
Les kits qui sont là nous permettent juste de dialyser une fois après 7 jours. En dehors de ça, il n'y a rien. Et le même ministre ne dit rien. Il ne se présente pas. On a fait 2 grèves en début de semaine. Il n'est pas passé. Tout ce qu'il a bien pu faire, c'est juste appeler le directeur de l'hôpital et demander au directeur de l'hôpital de nous calmer.
Il a déjà fait 1 an, 8 mois de dialyse. On a grévé alors. On a dit que le remède vient dans une semaine. Depuis, ça fait déjà 2 semaines, rien.
Atteint d'insuffisance rénale depuis 4 ans, Aloïse Ovidi est un habitué de l'unité dialyse de l'hôpital général de Yaoundé. Il dit vivre une situation sans précédent en sa qualité de coordonnateur national d'hémodialyse, sorte de syndicat qui défend les intérêts des patients d'insuffisance rénale au Cameroun.
Depuis 3 semaines, on a perdu 5 personnes. On n'était pas préparé pour dialyser une fois. Pardon, mais 8 jours.
jour sans dialyse. Nous, maintenant, c'est le potassium. On ne mange pratiquement. On est vraiment désespéré. Si on est préparé à la vérité, on peut vraiment survivre. Mais on nous trompe chaque jour. Vous voyez, on vous dit que demain, vous allez commencer à dialyser deux fois. Vous prenez des excès. C'est le potassium qui vous met à genoux.
170 patients pour 9 appareils de dialyse fonctionnelle, 4 chambres de 2 à 3 lits pour recevoir autant de personnes chaque semaine à l'hôpital général de Yaoundé. Le déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de séances de dialyse est criard. Joint au téléphone, le chef de la cellule de communication du ministère de la Santé publique expliquera pourquoi l'insuffisance des kits de dialyse prend des proportions inquiétantes à l'hôpital général de Yaoundé, Roger Mamoun.
Ils ont un effectif assez lourd et le nombre d'équipes ne suffit plus parce que justement tous les appareils ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on a réduit dans le nombre de séances de dialyse. Pour ceux qui ne veulent faire deux par semaine, ils font une par semaine. La seule difficulté, c'est que les gens ne respectent pas les fréquences de dialyse. Et tant que les kits seront là, on va faire fonctionner les autres appareils.
Dans un nouveau communiqué rendu public par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda a annoncé pour cette semaine la distribution de nouveaux kits de dialyse dans les hôpitaux concernés. Une promesse qu'il avait déjà faite le 30 juin dernier, sans changement majeur. Emmanuel Zultap, Yaoundé, VOA, Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la vie des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Comment ont-ils réagi en apprenant leur séropositivité? Comment se soignent-ils? Ont-ils des interdits alimentaires, des effets secondaires? Sont-ils encore victimes de discrimination? Nous avons posé ces questions à quelques-uns.
Nous avons recueilli le témoignage d'Asil, un homosexuel porteur du virus au Cameroun. Il nous a confié avoir été répudié par les siens et avoir perdu une opportunité d'emploi du fait de son statut.
À Kinshasa, nous avons rencontré Toussaint, un jeune qui a découvert son statut après 8 ans de maladie chronique. Il nous a raconté comment il a retrouvé espoir grâce à un groupe de soutien de séropositifs.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Au Bénin, les concours de beauté sont de plus en plus décriés dans le pays où une partie de la population, encore conservatrice, y voit un facteur de dépravation des mœurs. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Elles sont jeunes, encore au printemps de leur jeunesse, et elles se laissent souvent tenter par les concours de beauté dont les dénominations diffèrent d'un promoteur à un autre. Même si dans le cadre national, l'élection Miss Bénin est entourée d'un peu plus de sérieux, elle a été tout de même éclaboussée par bien le scandale lié à l'avenir des candidates dans le cercle restreint fait de promoteurs culturels, de donateurs et même d'autorités à un niveau donné de la sphère publique. Pour Anita Adamou, mère au foyer, pas question de laisser sa fille aller à un concours de beauté.
Je ne peux pas aimer voir ma fille complètement nue devant le monde entier. Une fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Mettre la beauté d'une femme complètement nue devant le public, moi, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça du tout.
Sabine Dalmeida ne voit rien de mal à rehausser les potentialités d'une jeune fille, mais que cela se fasse dans un esprit à relever la femme que de vouloir l'exhiber comme une bête de foire.
On peut faire des concours de Miss, que ce soit pour l'intelligence ou bien, par exemple, milieu scolaire. Ils peuvent faire des concours pour montrer l'intelligence des filles, quelque chose de ça, mais pas pour rester nue. Je ne vais pas encourager ça, pas du tout.
Dans le rang des spectateurs à 16 ans de concours se trouvent plus d'hommes que de femmes, mais tous ne sont pas pour la pagaille qui entoure l'organisation de ces genres d'événements où la jeune fille s'en sort parfois désillusionnée et trompée.
Qu'est-ce que ça rapporte? Je ne vois pas la beauté de la femme, n'est pas que voir ses fesses, combien sont les fesses rondes ou bien combien sont trop lisses les jambes.
Sarah Datso a été Miss Bénin 2011. Elle comprend les réticences de certains parents encore submergés par la tradition.
Au Nord, beaucoup de filles ne s'inscrivent pas. Et c'est dû à la tradition surtout. Parce qu'au Nord, on est beaucoup plus musulmans. Et les parents, surtout les parents musulmans, pensent que c'est un sacrilège qu'une fille se présente à un concours de ce genre. Parce que quand on dit concours Miss, il y a des phases pendant lesquelles vous êtes obligé de vous mettre en tenue pas trop correcte. Et il y en a aussi dans dans le passé qui, pendant l'élection, avaient des comportements pas très bien, surtout au niveau des organisateurs.
Mais en réalité, il faut dire que le maillot de bain accepté sous d'autres cieux est le point qui gêne énormément. Les gens n'ont toujours pas digéré cette élection Miss Bénin au cours de laquelle les fesses et les seins de plusieurs candidates ont été expulsés des maillots de bain pendant la parade de présentation. Actuellement, ce sont les vacances, le moment s'y prête bien. Miss Cotonou, Miss Vacances, Miss etc. Assez de concours sur lesquels l'État n'a forcément pas son mot à dire et qui contribuent à la dépravation qui pousse certains parents à dénoncer les concours de beauté. Peut-être qu'en essayant de réglementer le secteur, tout peut changer. Mais là encore, il faudra faire face au mur des féministes qui pensent qu'on peut révéler mieux la beauté de la femme à travers ses potentialités intellectuelles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alvesson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.